tout de suite le journal d'Antoine. Merci. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un accord de principe sur les conditions du Brexit. Ce matin, la Commission européenne et le Royaume-Uni tombent d'accord sur la première phase des négociations qui portent sur les modalités du divorce. Et ça ouvre la voie à des discussions sur les futures relations commerciales. On fera le point avec Quentin Dickinson à Bruxelles et Antoine Gignot à Londres. Des centaines de policiers supplémentaires déployés ce matin à Jérusalem en prévision de la prière du vendredi. Les Palestiniens appelés à manifester après la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Réunion ce soir du Conseil de sécurité, on sera en ligne avec Étienne Monin dans cette édition. La réunion de Paris du groupe international de soutien au Liban, Emmanuel Macron met en garde implicitement l'Iran et l'Arabie Saoudite contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Liban, suivi de la rencontre avec Valérie Crova. En France, les députés adoptent une proposition de loi qui autorise la rétention des migrants qui sont soupçonnés de vouloir échapper à une décision d'expulsion. C'est un tournant politique déplorable, affirme le défenseur des droits Jacques Toubon. Explication avec Fanette Ouhre. Le Conseil constitutionnel et l'indépendance du parquet. Ils jugent ce matin que le texte qui définit la subordination hiérarchique du parquet au garde des Sceaux, eh bien, ce texte est conforme à la Constitution. Commentaire de Camille Magnard, l'invité de la séquence interview, le politologue Stéphane Rezès, et dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Un voyage littéraire et intellectuel au Proche-Orient, où l'on s'arrêtera un instant à Jérusalem, à travers l'œuvre de l'intellectuel américano-palestinien Édouard Saïd. On reçoit aujourd'hui la romancière et essayiste Dominique Hédé, auteure de Édouard Saïd, le roman de sa pensée aux éditions La Fabrique. Elle est donc notre invitée dans la deuxième partie de l'émission.
La porte de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est donc désormais bien ouverte. La Commission européenne et le Royaume-Uni tombent d'accord pour cette première phase de négociation qui portait sur les modalités de leur divorce. Et la voie est donc dégagée pour la discussion de futures discussions sur notamment les relations commerciales. Ce n'est pas la fin, mais la fin du début des négociations, expliquait ce matin le Premier ministre irlandais Quentin Dickinson. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Sur les trois principaux points donc qui étaient jusqu'à présent en discussion, à savoir la facture que les Anglais doivent payer, la frontière et notamment la question de l'Irlande et les expatriés, eh bien un accord cadre, on peut dire, a été trouvé.
Oui, il faut préciser tout d'abord que sur la facture, c'est réglé sur les règles de calcul, mais il n'y a pas de chiffre global. Sur les expatriés, l'accord est même assez détaillé, mais sur la frontière inter-irlandaise, eh bien tout reste à faire. Et pour être clair, il ne s'agissait aujourd'hui que d'atteindre un accord politique qui en lui-même constitue un progrès quantifiable, mais fruit d'un compromis qui reste évidemment incomplet. C'est uniquement la condition pour que puissent démarrer les pourparlers de la seconde phase, c'est-à-dire celle qui sera consacrée à définir les futures relations qui ne seront plus que commerciales entre le Royaume-Uni et l'Europe des 27. Mais ces pourparlers-là se dérouleront en parallèle avec la négociation de la première phase qui doivent aboutir à la rédaction du traité de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne d'ici à octobre 2019, après quoi cela s'ouvrira. Je viens de dire une bêtise d'ailleurs, c'est octobre 2018. Pardon Antoine.
C'est rare.
Après cela s'ouvrira. Après cela s'ouvrira la dernière phase qui est celle de la ratification parlementaire et de la promulgation de ce traité.
Alors donc, Quentin Dickinson, fin de cette première phase, des négociations qui continuent, mais la deuxième phase va pouvoir commencer. Et selon le président du Conseil, Donald Tusk, le défi le plus difficile, ce seront bien sûr ces négociations qui sont à venir. Pour quelles raisons?
C'est sans doute l'effet d'abord du sens de la formule de l'humour et de l'humour grinçant auquel Donald Tusk nous a habitués. Alors, est-ce que vraiment le plus dur reste à faire? C'est difficile à dire, mais on peut même affirmer que lorsque les Britanniques auront choisi le modèle de coopération avec les Européens, modèle canadien, modèle norvégien ou tout autre, eh bien, le travail de mise en forme sera long et détaillé, certes, mais en fait relativement simple. Et la perspective d'une période de transition de 2 à 3 années après le 29 mars 2019, bien 2019, permettrait un temps supplémentaire de réflexion effectivement bien utile.
Merci beaucoup Quentin Dickinson, donc en direct de Londres. Il y a 30 ans, c'était le 9 décembre 1987, éclatait la première intifada qui devait, on le sait, embraser pendant au moins 6 ans la Cisjordanie et Gaza avant d'aboutir à la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Et bien donc des appels à une nouvelle intifada avaient été lancés hier après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les forces de sécurité israéliennes avaient renforcé leur présence depuis ce matin à Jérusalem. Il n'y a pas eu de restriction toutefois à l'entrée, à l'accès de la mosquée Al-Aqsa. Nous n'avons aucune indication sur de possibles désordres ordre, donc il n'y a pas de raison de faire des restrictions, c'est ce qu'affirmait ce matin le porte-parole de la police israélienne. Et s'il y a le moindre désordre, eh bien nous réagirons immédiatement. On retrouve Étienne Monin qui est sur place. Où en est-on donc ce midi?
Finalement, on peut dire que Jérusalem est revenu à une normalité après la grève d'hier et les stores baissés des magasins. La prière s'est déroulée dans le CAM. Il y a eu une bousculade tout à l'heure devant la porte de Damas, mais pas de véritable heurts. La vieille ville n'a pas servi pour l'instant de lieu de confrontation. Le dispositif policier n'était pas hors norme comme on peut le voir en général lors des pics de tension. Et vous l'avez expliqué, il n'y a pas eu de mesure d'âge pour filtrer les entrées sur l'esplanade des mosquées devant les caméras du monde entier, avec un enjeu d'image évident. Israël a joué la sérénité face à des Palestiniens de Jérusalem visiblement abattus, convaincus que la violence n'apporterait rien à leur cause et que seul le soutien des pays arabes pourrait maintenant les sortir de l'impasse. La prière d'aujourd'hui a été importante, mais elle n'a pas été massive. Elle n'apparaît pas comme une réponse soudée, déterminée à la position américaine. Les Palestiniens de Jérusalem se sentent isolés, à la recherche d'un mode d'action. Et ce que redoutent maintenant les Israéliens, c'est une violence perlée avec des attaques individuelles, comme on le voit de façon sporadique encore depuis le déclenchement d'une vague de violence qui a démarré en 2015.
Merci beaucoup Étienne Monin, donc en direct de la vieille ville de Jérusalem. Hier, il y avait eu des heurts entre manifestants et forces de sécurité, une trentaine de blessés dans les rangs des Palestiniens en Cisjordanie et à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, manifestation aussi en Jordanie, en Turquie, au Pakistan, en Tunisie et ce matin en Malaisie, en Indonésie et à nouveau en Turquie. Ce matin, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, disait désapprouver l'initiative de Donald Trump parce qu'elle est contraire, disait-il, au droit international, à une forme de consensus qui permettait d'entrevoir une solution pour le conflit israélo-palestinien. C'est ce qu'il disait ce matin sur France Inter, il y a quelques minutes, lors d'une conférence sur le Liban, sur laquelle on va revenir et qui se tient aujourd'hui à Paris. Eh bien, le chef de l'État a précisé la position française.
Aucun des problèmes de la région ne sera réglé par des décisions unilatérales, par la loi du plus fort ou par l'humiliation de l'autre. Les équilibres dans la région ne se construiront que dans la capacité à préserver le pluralisme qui en fait l'histoire. Et le Liban est à cet égard un modèle. Je souhaite vraiment que les initiatives prises sur le statut de Jérusalem, qui doit faire avant tout l'objet de négociations entre Israéliens et Palestiniens sous l'égide des Nations Unies, ne viennent pas ajouter de l'instabilité à la région. Suite à l'annonce du président des États-Unis avant-hier, je lance donc ici un appel au calme et à la responsabilité de tous, indispensable pour accompagner les efforts que nous conduisons aujourd'hui.
Emmanuel Macron, donc, lors de cette réunion sur le Liban, le chef de l'État a bien sûr parlé, on l'a entendu d'ailleurs, de la situation dans ce pays. Il a mis en garde à mot couvert à la fois l'Iran et l'Arabie Saoudite contre toute ingérence dans les affaires intérieures du pays, Valérie Crovat.
Et le maître mot de cette réunion, répété, vous le disiez, par Emmanuel Macron, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et par le Premier ministre libanais lui-même, a été distanciation. Autrement dit, pour que le Liban soit préservé des crises, il faut que l'ensemble des partis et des acteurs libanais respecte le principe de non-ingérence vis-à-vis des conflits régionaux, un message clairement adressé au Hezbollah libanais, dont on connaît l'implication dans la guerre en Syrie voisine, mais aussi à l'Iran, impliqué au Yémen, contre l'Arabie Saoudite. En d'autres termes, il leur est demandé de lever le pied pour éviter des actions qui pourraient de nouveau déstabiliser le Liban, véritable caisse de résonance des conflits au Moyen-Orient. C'est parce qu'il estimait que le Parti de Dieu ne respectait pas cette neutralité que Saad Hariri avait démissionné avec fracas il y a un mois. Aujourd'hui, il est revenu sur sa décision, soutenue par la France et d'autres amis, a souligné tout à l'heure le Premier ministre libanais, des amis auxquels il a demandé de l'aide pour permettre au Liban de faire face à l'afflux de réfugiés syriens sur son sol, 1,5 million, et pour soutenir son économie, mais aussi pour renforcer son armée vieillissante. Il s'agit d'un sujet sensible, car l'Arabie Saoudite s'était engagée à financer pour plus de 2 milliards d'euros d'équipements militaires achetés à la France. Or, Riyad a suspendu sa décision en 2016, arguant de la mainmise du Hezbollah sur le Liban. Cette réunion du groupe international de soutien au Liban avait donc aussi pour but de demander indirectement à l'Arabie Saoudite de débloquer les fonds qu'elle avait promis et de jouer elle aussi, un rôle plus constructif au pays du Cèdre.
Merci beaucoup Valérie Crova. L'actualité française avec les députés qui adoptent la nuit dernière cette proposition de loi qui autorise la rétention des migrants qui sont soupçonnés de vouloir échapper à une décision d'expulsion selon ce règlement. Donc les demandeurs d'asile sont susceptibles d'être renvoyés dans le pays par lequel ils sont entrés dans l'Union européenne. C'est une disposition qui a été dénoncée par le défenseur de droit Jacques Toubon, pour qui c'est un tournant politique déplorable. Fanette Our, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi déplorable ?
Parce que ce texte très technique, hein, en apparence, aura des conséquences en fait très concrètes pour un grand nombre de demandeurs d'asile. Ça concerne les migrants qu'on appelle les Dublinés, ceux qui sont sous le coup du règlement européen de Dublin. Par exemple, un réfugié qui est en France mais qui est entré en Europe par l'Italie est un Dubliné. Il n'a donc pas le droit de faire sa demande d'asile en France. Il a l'obligation de retourner en Italie et de la faire là-bas. Jusqu'à présent, ces Dublinés n'avaient pas le droit d'être enfermés, d'être placés en rétention administrative ou alors uniquement si leur expulsion vers leur pays d'entrée a déjà été acceptée. Eh bien, avec cette proposition de loi, tout ça risque d'être bouleversé. Ces migrants pourront être beaucoup plus facilement privés de liberté, et ce, quelles que soient les raisons. Un scandale donc pour les associations, mais aussi pour le défenseur des droits. Il explique que ce sont finalement ceux qui ont le plus besoin d'être protégés qui seront les plus menacés. Jacques Toubon craint aussi une banalisation de l'enfermement des migrants, sachant que ces Dublinés sont de plus en plus nombreux, près de 40 000 en France fin 2017, un chiffre qui a doublé par rapport à l'an dernier. Mais ce qui inquiète surtout le défenseur des droits, c'est la suite. Le gouvernement doit présenter une loi sur les étrangers l'année prochaine qui risque de durcir encore ce dispositif. Plusieurs fois déjà depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a jugé le taux de renvoi des étrangers beaucoup trop faible.
Fanette Our, merci.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par les syndicats de magistrats de la question sensible de l'indépendance du parquet. Antoine Mercier, l'Union syndicale des magistrats, avait profité d'un litige sur l'organisation du ministère de la Justice pour déposer une question prioritaire de constitutionnalité sur cette question.
Et oui, et donc les sages devaient dire si la Constitution qui place les magistrats du parquet sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice, est ou non contraire au principe de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance, de l'autorité judiciaire, qui sont eux aussi protégés par cette même Constitution. Donc, réponse ce matin des sages, eh bien le texte qui définit la subordination hiérarchique du parquet au garde des Sceaux est tout à fait conforme à la Constitution. Camille Magnard, pas de révolution donc dans l'équilibre des pouvoirs, en tout cas l'équilibre de cette Constitution de la Ve République.
Oui, c'est vrai, là où les magistrats du parquet et leurs syndicats voulaient tout remettre à plat, eh bien le Conseil constitutionnel se contente d'un strict lapidaire rappel à la règle existante. Si les procureurs doivent rester sous l'autorité de l'exécutif, eh bien c'est parce que, comme le prévoit la Constitution, il leur appartient de mettre en œuvre les instructions générales de politique pénale et de garantir, c'est encore la Constitution qui le dit, sur tout le territoire, l'égalité des citoyens en matière de droit. Une fonction, on le voit, d'harmonisation de la manière de mener les instructions et de requérir les peines. Mais attention, pas pour autant d'immixtion du garde des Sceaux dans des affaires individuelles. Ça, rappellent les sages, c'est posé par la réforme Taubira de 2013 qui proscrit au ministre de donner donc des instructions spécifiques aux magistrats du parquet. Et c'est en ce sens que, pour le Conseil constitutionnel, le droit actuel est équilibré et ne déroge pas aux principes fondamentaux de la Constitution, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Il valide donc cette indépendance à deux vitesses que dénonçaient les syndicats de magistrats, les juges du siège pleinement indépendants, inamovibles et sanctionnables seulement par leur pair, quand les parquetiers, eux, restent nommés par le garde des Sceaux qui peut les déplacer à sa guise et les sanctionner le cas échéant. Les mêmes syndicats rappellent pourtant que cette situation spécifiquement française déroge aux règles européennes en la matière. Ils vont à présent concentrer leurs efforts de lobbying sur Emmanuel Macron, car pendant la campagne présidentielle et encore cet été, le chef de l'État promettait pour l'an prochain une grande réforme constitutionnelle afin de garantir justement une plus grande indépendance aux procureurs. Depuis, le sujet ne semble plus vraiment faire partie de ses priorités. Les magistrats comptent donc bien s'appuyer sur la décision des sages ce matin pour le rappeler à ses engagements.
Camille Magnard, merci. Le Conseil qui valide par ailleurs l'élection de Manuel Valls dans l'Essonne et qui rejette donc la demande de la candidate de la France Insoumise Farida Amrani, battue au deuxième tour, c'était le 18 juin dernier, par seulement 139 voix d'avance. Dans l'actualité politique, encore ce week-end, on rappellera deux élections importantes. D'abord le second tour des territoriales en Corse, qui devrait se solder par une majorité absolue pour les nationalistes, qui étaient les grands vainqueurs du premier tour dimanche dernier avec plus de 45% des voix, qui devançaient largement les les trois listes qui sont encore en lice pour ce second tour, à savoir la droite régionaliste à 15%, celle soutenue par les Républicains moins de 13 et celle de la République En Marche un peu plus de 11. Et puis, élection ce dimanche également, la présidence du parti Les Républicains, vote ouvert aux quelques 235 000 adhérents officiels, enfin à jour de cotisation, et qui se fera donc par voie électronique. Laurent Wauquiez donné favori face à ses deux concurrents, Florence Portelli, Maël de Calan. Dans un entretien au Parisien ce matin, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, prévient qu'il n'y aura plus d'alliance avec les Républicains et sa formation, donc les centristes de l'UDI, si Laurent Wauquiez est élu à la tête de LR. Entretien accordé donc ce matin à nos confrères du Parisien. Et la politique nous amène à notre invité que nous saluons. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Rosès, président du CAP, enseignant à Sciences Po, à HEC, actualité chargée. Monde en mutation, on s'est proposé tous les deux de revenir sur l'ensemble de cette actualité du jour pour essayer de tirer un fil unique finalement que vous avez tenté de tirer vous-même dans un récent article de la revue Commentaire qui s'appelait « Notre imaginaire national et les autres, donc ceux des autres pays, à l'épreuve de la mondialisation ». Exercice pratique pour commencer, Stéphane Rosès, est-ce que vous êtes en mesure de nous faire le collier qui va rassembler toutes les perles que contenait ce journal ?
Malheureusement, peut-être, on va échanger dessus, le Brexit, les élections en Corse après la Catalogne, donc une forme de séparatisme, la question de Jérusalem, où on voit le leader de la première puissance mondiale qui semble renoncer à l'idée de porter quelque chose au plan international. On a parlé évidemment du Liban, de la crise des migrants. Il faut arriver à rendre compte d'un paradoxe apparent. Les peuples sont de plus en plus interdépendants économiquement, financièrement, reliés numériquement, et ils semblent se séparer humainement. Partout, nous assistons à une sorte de grand repli du monde. Et je crois que notre difficulté à rendre compte de ce mécanisme vient du fait que nos grilles d'analyse sont très très économistes, marquées par exemple au XVIIIe par la pensée de Condorcet. Je crois qu'il vaut mieux revenir à Montesquieu, c'est-à-dire que les peuples arbitrent chacun différemment la question du juste, du bon et de l'efficacité économique. Et la nouveauté de la période, pour rendre compte du paradoxe actuel, c'est que les modalités de la globalisation économique, financière, numérique, peu à peu, se déscotchent des communautés humaines, peuples, nations, qui les précédaient autrefois. Ça vient de révolutions technologiques, des modalités du capitalisme.
Ce qu'on appelle la déconnexion finalement de toute cette structure.
Voilà, c'est ça.
Par rapport à quoi ? Par rapport à ce qui sera un peuple ?
Par rapport justement à ce que sont les peuples, notre universalisme français nous empêche à comprendre la spécificité des peuples. On va parler tout à l'heure avec l'invité d'Edouard Saïd. Chaque peuple est singulier. Or, la pensée occidentale qui semble l'emporter dans le monde, dans la globalisation, c'est l'illusion que le cours des choses se fait par le haut, par le chiffre, le nombre. Si j'avais pu débattre avec le grand Alain Supiot, qui a fait un très beau livre, La gouvernance par les nombres, de sorte que les peuples se racontent que c'est un complot. En fait, non, évidemment, l'hypertrophie de la finance, le fait que nous voyons tous les produits de la globalisation viennent bien de la société, sauf que la dynamique est telle que l'efficace se déscotche du bon et du juste pour chaque peuple, de sorte que les peuples se sentent privés de la maîtrise de leur destin et reviennent à l'archaïsme de leur imaginaire qui est non pas d'assembler les peuples par l'hétéronomie de la loi, de la culture propre à chaque peuple, mais dans une construction identitariste, pas identitaire, identitariste, où on se construit contre l'autre. Non pas en mettant en avant ce qui assemble positivement ce tissage entre les questions culturelles, économiques et politiques, mais contre l'autre. Et c'est ainsi, je crois, en tenant ensemble les questions identitaires, politiques et économiques, qu'on peut rendre compte de ce grand renfermement.
Alors, grand renfermement, effectivement, déconnexion d'une sphère mondialisée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a, c'est le retour de balancier sur l'identitarisme.
Absolument.
Et est-ce qu'il y a un autre moyen de s'en sortir que de revenir
à cette solution ? Oui, c'est la difficulté, mais c'est ça qui se passe. Trump, le Brexit, Poutine, Erdogan, l'Inde, le Japon qui se renferme, la montée du radicalisme religieux. Je mets un peu à part la Chine parce que elle se renferme en interne, mais en externe. Elle est obligée, par exemple, au travers de la route de la soie, pour conserver son arrière-fond, de se mettre en avant, le discours de Xi Jinping à Davos. Mais effectivement, c'est un grand renfermement. Et là-dessus, il y a le retour de la France, parce qu'au fond, il y a un imaginaire français qui est universaliste. Emmanuel Macron dit que la France est une grande nation, non pas par son PIB, ses agrégats économiques, mais par sa pensée même universaliste, qui date de quelques siècles, de sorte que dans le génie français, quand il se déploie, il y a une capacité de tenir ensemble le global, une pensée un peu cartésienne du haut, et en même temps, quand même, parce qu'on s'est un tout petit peu baladé, si on est un peu cultivé, c'est le cas de Macron, c'était pas le cas de ses prédécesseurs, une compréhension de ce qu'est l'histoire, de ce qu'est la littérature, de ce qu'est la poésie, de ce qu'est le théâtre, et donc le fait que ce qui fait le cours des choses, ce n'est pas seulement, voire essentiellement, l'économie.
Là, c'est l'impression qu'il vous donne aujourd'hui dans son action de pouvoir relier ces deux mondes qui se séparent.
Alors, le problème, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Car ce qui est frappant, c'est que quels étaient les grands dirigeants internationaux qui eux se essayent ? Il y a eu Obama, qui a beaucoup réfléchi sur ses origines, son père, qui est quelqu'un d'une grande intelligence, qui tient ensemble les questions culturelles, économiques et politiques. Il y a Macron, et au fond, il n'y a pas énormément de grands autres interlocuteurs. Paradoxalement, on peut peut-être plus s'y trouver du côté de Poutine, qui lui défend ses intérêts, mais qui comprend bien quand il intervient en Ukraine et en Crimée. Ce que comprenait pas Merkel. Merkel disait à Obama, Poutine est irrationnel. Sous-entendu, on lui serre le kiki économiquement et il bouge pas. Oui, mais voilà, il faut comprendre l'imaginaire russe, le rapport à l'espace et au temps. Bon. Et paradoxalement, nos amis chinois, qui sont pas du tout universalistes, eux, par la force des choses, parce que c'est une civilisation en soi, pensent ça. Hein, bon. Mais dans le monde occidental, aujourd'hui, je ne vois personne pour aider la France à essayer peu à peu de reconstruire quelque chose. Et on voit au fond les succès de Macron, y compris dans des endroits pas attendus, où la France, par néoconservatisme, s'était retirée toutes ces dernières années, qui est le Proche et le Moyen-Orient.
Merci beaucoup Stéphane Ouzas. Je vous propose quand même de parler des deux disparitions de la semaine. Pour Jean d'Ormesson, il y avait un hommage aujourd'hui et il y a eu un discours précisément d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'en entendre un petit extrait avant de vous retrouver.
Jean d'Ormesson fut ce long été auquel, pendant des décennies, nous nous sommes chauffés avec gourmandise et gratitude. Cet été fut trop court et déjà quelque chose en nous est assombri. Mais celui que l'on voyait caracoler, doué comme il l'était pour l'existence et le plaisir, n'était pas le Ludion auquel quelques esprits chagrins tentèrent, d'ailleurs en vain, de le réduire. Jean d'Ormesson était de ceux qui nous rappelaient que la légèreté n'est pas le contraire de la profondeur, mais de la lourdeur.
Voilà, la légèreté qui n'est pas le contraire de la profondeur, mais de la lourdeur. Hommage à Jean d'Ormesson ce matin du chef de l'État. Et puis demain, il y aura cet hommage à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, vous arrivez à l'intégrer dans votre vaste perspective mondiale.
D'Ormesson, en tout cas, oui. Sur la légèreté française depuis des siècles, c'est la façon d'assembler un pays qui n'a pas d'origine. Donc ça date quand même de quelques siècles. Mais pour que ça résonne et qu'on rende explicite, conscient, ce qu'il y a d'inconscient dans le succès de quelqu'un comme d'Ormesson, il faut effectivement s'intéresser un peu à l'histoire et à la littérature. Alors Johnny Hallyday, clairement, c'est quoi une chanson ? C'est en quelques minutes, au fond, dire des morceaux de vie. Or Johnny Hallyday, il passe les générations et au fond, il est très interclassiste, de sorte que, hormis quand la France a gagné la Coupe du Monde de football avec Zidane, je ne vois pas de moment historique où des questions culturelles comme le sport et la chanson arrivent à ce point à assembler un peuple et de montrer au fond que la France n'existe que quand elle arrive à se projeter dans l'espace, le temps ou des personnes.
Retour de ce que vous appelleriez un imaginaire national, mais là c'est pour l'enterrer. Il y a peut-être aussi une nostalgie d'une disparition.
Oui,
alors
il y a
de l'identité
non,
nationale,
non, mais
de l'imaginaire
national. Mais il y a deux lectures. La France et les Français cherchent éperdument ce que l'on a de commun, de sorte d'y déployer à l'intérieur la dispute, car dans ma grille d'analyse de la dispute commune, il n'y a pas d'un côté le commun et de l'autre la dispute. La condition du bon fonctionnement de la dispute, c'est qu'elle puisse se déployer dans un commun projectif. Donc ensuite, chacun a son Johnny Hallyday, et ceux qui ont lu d'Ormesson dans la Pléiade ou ailleurs, chacun à la limite va aller chercher chez d'Ormesson ce qu'il préfère.
Stéphane Rosès, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu de commenter comme ça de façon globale l'actualité. Je renvoie à votre article de la revue Commentaire sur les imaginaires nationaux et les preuves de la mondialisation. Un temps instable, des averses, ciel nuageux sur l'ensemble du pays, 3 à 6 degrés du nord-est au centre-est, de 6 à 13 ailleurs, jusqu'à quand même 14 à 16 degrés de la Côte d'Azur à la Corse. Édition réalisée avec Yacine Bouzard qui s'achève 18h, le magazine de la rédaction, signé pour Sauver des vies, magazine où vous allez entendre des reportages de nos correspondants. Cependant, Étienne Monin à Jérusalem, Dominique André à Pékin et Laure Verneau à Madagascar. Trois reportages coordonnés par Marie-Pierre Véraud, présentés donc par Aurélie Kiffer. Et ce magazine est réalisé par Annie Brault. 18h, ce sera le journal d'Anne Fauquemberg.